Alors, je vous propose de continuer notre lecture dans la première lettre aux Corinthiens. J'espère que vous n'en avez pas marre, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas fini encore. On approche de la fin, mais il faut creuser encore davantage pour aller un petit peu plus loin. Je crois que c'est la première fois que nous faisons cette expérience un petit peu sur un long terme de prêcher, de partager sur un texte comme cela, à plusieurs voix, avec Loïc, avec Franck, avec Pascal, avec Laurent, et puis moi-même. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on découvre qu'on ne fait qu'effleurer la surface. Et lorsqu'on a le désir de se plonger dans la parole de Dieu, lorsqu'on commence à creuser, on trouve des filons. Et plus on creuse, et plus on trouve des filons, parce que la parole de Dieu, elle est riche. C'est vrai qu'elle peut se contenter d'une seule lecture, mais je crois que lorsqu'on prend du temps et qu'on s'approche de la parole de Dieu, lorsqu'on s'approche de la Bible et qu'on désire la comprendre, lorsqu'on désire la saisir, eh bien il se passe quelque chose de formidable. Elle nous fait dévoiler cette richesse qui nous nourrit, n'est-ce pas ? Plus je creuse dans cette mine, plus je découvre de nouveaux filons et de nouvelles richesses importantes pour notre foi. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur le chapitre le plus long de l'épître. Et je vous rappelle que cet épître aux Corinthiens est la lettre la plus longue de l'apôtre Paul. Donc dans cette longue épître, il y a un long chapitre. Et c'est le chapitre 15. C'est le chapitre qui traite de la résurrection. Alors rassurez-vous, je ne vais pas partager sur la totalité de ce chapitre 15, quoiqu'on peut le lire d'une seule traite, et c'est tellement merveilleux. Donc nous allons lire simplement les 11 premiers versets. Nous allons faire des excursions dans le reste du chapitre. Alors on va les lire d'abord si vous voulez. Donc si vous avez votre Bible, je vous propose de l'ouvrir donc au chapitre 15 de l'épître de Paul aux Corinthiens, donc une lettre qu'il adresse à l'église à Corinthe. Et les 11 premiers versets. Alors, je vais le lire avec vous ici. Je vous rappelle, frères et sœurs, alors chaque fois que l'apôtre Paul emploie le mot frère, c'est qu'il veut arrêter, ou frères et sœurs, c'est qu'il veut arrêter la lecture. Il écrit d'une seule traite, mais lui, chaque fois que vous voyez le mot frère et sœurs, et lorsque l'apôtre Paul s'adresse directement, ça veut dire, attention, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Là. Alors, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, dans une autre version, c'est dans ou sur lequel vous tenez debout, c'est aussi par lui, par l'évangile, que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message. Dans une autre version, la version Sommer, il nous est dit, je vous ai transmis le message de première importance. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. On peut passer l'autre diapo. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi-même toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Alors dans ces versets, Paul désire rappeler aux Corinthiens le message de l'Évangile. Je vous rappelle l'Évangile, je vous rappelle la bonne nouvelle. Il dit qu'il n'y a qu'un seul message, qu'un seul Évangile, qu'une seule bonne nouvelle qu'il a lui-même reçue, expérimentée, vécue et qu'il prend soin de transmettre. Il prend soin aussi de dire que les autres apôtres, même s'ils sont différents, ont aussi le même message et qu'ils annoncent eux aussi le seul et même évangile. Alors, écoutez, c'est incroyable. Vous savez que l'apôtre Paul est resté 18 mois à Corinthe. Ça, on l'avait vu lors de la première enseignement, il y a quelques 2 mois en arrière. Paul est resté 18 mois à Corinthe et il a proclamé l'évangile tel qu'il le décrit en ces quelques mots. Ce même message, il l'a répété plusieurs fois. Et encore lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, il désire le rappeler, le dire encore une fois. Au chapitre 2, verset 2 de la même épître, il nous est dit « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il aurait eu des tas de choses à dire, l'apôtre Paul. Son enseignement est très riche. Mais à l'église de Corinthe, il a donné ce message et il a redonné ce message, et il a redonné encore ce message, et il a encore dit une nouvelle fois ce message, et encore dans cette lettre, il dit « Je vous le rappelle, je vous rappelle l'Évangile, je vous rappelle l'Évangile. » C'est donc un message qui est souvent entendu, et Paul sent encore la nécessité de rappeler, c'est-à-dire de remettre en mémoire, c'est-à-dire de raviver la mémoire au sujet de cette vérité. C'est-à-dire de remettre au centre l'Évangile. Tout à l'heure, on a chanté « Toute ma vie, je redirai que tu es mort pour moi. Toute ma vie, je redirai. » Parce que vous avez pensé que hier vous l'avez dit, qu'avant-hier vous l'avez dit, qu'avant-avant-hier vous l'avez dit, et que demain vous serez appelé aussi à dire et à redire cette même vérité, à la vivre d'une façon peut-être nouvelle. L'Évangile a une seule proclamation, elle est à se l'approprier, à la vivre et à la proclamer. Alors pourquoi est-ce que Paul doit-il rappeler l'Évangile aux Corinthiens? Est-ce que l'Église est atteinte d'Alzheimer? Est-ce qu'elle est atteinte de gâtisme? Est-ce qu'à force de manger de viande sacrifiée aux idoles, ils ont attrapé la maladie de la vache folle? Et on lit la réponse au verset 12. Si on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Dans l'Église, aux Corinthiens, il y a des gens qui se posent les questions, la question sur la réalité de la résurrection du Christ et de la résurrection des corps. Ils se posent la question. Certains, tout à l'heure, je suis arrivé avant le culte, et puis il y a des jeunes qui discutaient sur une émission qui avait été donnée hier soir, je ne sais pas sur quelle chaîne. Comment ça s'appelle déjà, Alexis? Hein? Voilà, secret d'histoire, etc. Alors, on ne sait pas si Abraham a existé, on ne sait pas si Jésus il a fait quelque chose de spécial, on pense qu'il a été voir le Bouddha, c'est ça que tu m'as dit. Voilà, on ne lit pas l'Évangile, on extrapole sur la vérité de l'Évangile, on ne se fie pas au texte qui nous a été donné, on essaye d'intellectualiser, on oublie l'Évangile. Ce n'est pas une émission que je vous conseille de voir, ou alors de le voir avec vraiment un esprit très critique. Voilà. Hein? Comme eux, ils sont critiques par rapport à l'Évangile, soyons critiques par rapport à eux qui annoncent ces choses-là. Hein? Alors certains dans l'église de Corinthe pensent, parce qu'ils sont, je vous le rappelle, dans un milieu philosophique grec, que la résurrection n'est pas possible. Pourquoi la résurrection n'est pas possible? Non pas parce qu'elle serait surnaturelle, contraire à la nature, mais parce que le corps est considéré comme mauvais. Le corps, c'est le mal. Pour un grec, le corps, c'est le mal. Alors, je ne vais pas revenir sur la réhabilitation du corps, ça nous l'avons vu déjà il y a un mois en arrière. Je vous rappelle que tous les messages sont sur le site internet, pub, donc vous pouvez aller réécouter ce qui a été dit sur ce sujet-là. Donc, la pensée biblique, c'est une réhabilitation de la dignité du corps, et ça c'est important. Paul répond à l'Église qui est en train de s'interroger sur la résurrection. y répond en affirmant le message de l'Évangile. Il le fait sous forme d'énoncé, simple à retenir. Il enseigne le béaba de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il a été vu, et là Paul cite les différents témoins de la résurrection. Lorsque Paul parle de la résurrection, frères et sœurs, c'est important, il ne parle pas de théorie, il ne parle pas d'idée, il ne parle pas de philosophie, il parle de faits et d'événements historiques. L'Évangile n'est pas une belle idée philosophique à adopter après confrontation d'autres idées. L'Évangile, ce sont des faits qui se sont manifestés dans l'histoire. D'événements inscrits dans l'histoire, préparés longtemps en avance par le conseil de Dieu, annoncés par les prophètes. Paul insiste sur l'importance de ces faits à répéter, à proclamer et à prêcher. Nous avons là un enseignement de première importance, ou on pourrait encore dire d'une importance capitale. Capitale. Vous connaissez la peine capitale ? Voilà, et là c'est une importance capitale, une importance capitale. L'apôtre Paul va le dire ailleurs dans une épître, dans l'épître aux Romains, il va dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Pourquoi il n'en a pas honte ? Parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile annoncé et énoncé comme l'apôtre Paul le fait, est une puissance de Dieu et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En quoi l'écoute d'un message formulé en énoncé est-il une puissance ? En quoi ? Comment cela se fait-il qu'en 1975, le 15 avril, je suis devenu subitement un chrétien. Alors que André Géminard, la sœur d'Aline, me donnait son témoignage, témoignait du fait de Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors que j'écoutais avec mon intelligence, que je méditais, je réfléchissais sur les conséquences, comment cela se fait que cet évangile a pénétré au-delà de mon intelligence, a fait naître en moi une graine de foi et que j'ai pu crier au Seigneur, sauve-moi, et que le Seigneur a entendu par le témoignage d'une jeune femme qui m'a témoigné du fait que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Ça, c'est la puissance de Dieu pour le salut. La puissance de Dieu pour le salut. Chacun d'entre vous, sûrement, vous auriez un témoignage de comment l'Évangile a percé votre intelligence, a percé votre cœur et a commencé à nourrir votre âme et vous a amené au salut. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Je ne savais pas à cette époque qu'il y avait un travail du Saint-Esprit qui s'accomplissait en même temps que André Géminard me donnait son témoignage. Je le sais maintenant a posteriori. Chaque fois que nous témoignons, frères et sœurs, et là, chaque fois que je prêche, que je monte sur la scène et que je prêche, je crois qu'il y a le travail du Saint-Esprit en vous, que mes paroles ne sont pas simplement des paroles de Norbert. Chaque fois que je témoigne de Jésus-Christ, il y a en vous une main invisible que l'on appelle le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans vos cœurs pour annoncer, pour confirmer, pour attester. Je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Chaque fois que vous donnez votre témoignage, le Saint-Esprit est à l'œuvre derrière. Je dirais, c'est même pas besoin d'avoir des techniques de communication. Bien que ce serait bien d'améliorer la communication, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de la technique de communication, le Saint-Esprit vient et atteste, confirme, convainc la personne. L'Évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, je voudrais ce matin, comme l'apôtre Paul, nous rappeler le message de l'Évangile. Pour que ce message que nous avons entendu, qui a porté du fruit en nous, soit encore re-entendu, rappelé comme l'apôtre Paul le dit, pour qu'il porte encore du fruit en nous, pour que la puissance de salut de Dieu puisse encore se manifester de la même manière. Alors nous allons nous rappeler, frères et sœurs, ce que Jésus a fait, a dit, nous a ouvert la voie de la vie éternelle. L'Évangile commence par un problème. L'Évangile commence par mettre le doigt sur le problème. Si on parle d'un salut, c'est qu'il y a un problème. Si on n'avait pas besoin d'être sauvé, si nous n'avions pas de problème, il n'y aurait pas besoin de parler de salut. Voilà. L'Évangile commence par mettre le doigt sur le problème. Je dirais même qu'il y a même un big problème. Il faut mettre toujours un petit peu d'anglicisme dans les paroles pour que ça passe mieux. Alors, un big problème. Et c'est un big problème d'autant plus gros que la majorité des hommes n'en ont plus conscience. Il y a une plaie immense dans le cœur de tous les hommes. Cette plaie immense, elle va se manifester par des symptômes variés. Chez certains, le mal-être, la perte de sens. Chez d'autres, la peur. Chez d'autres, la maladie. Chez les uns, la quête du bonheur qui ne sera jamais atteint. Lorsqu'on court après le bonheur, il n'est jamais atteint. On accumule des choses, on accumule de la richesse, on accumule des plaisirs, mais on est toujours insatisfait. Des choses qui nous détournent l'âme de ses véritables aspirations. Tout ça, ce n'est que des symptômes, symptômes de la rupture de la relation avec le Créateur, avec le Père de toute vie. Parfois, les gens sont insensibles au mouvement de leur âme qui est à l'intérieur d'eux, de cette âme qui est à la recherche de la seule nourriture qui lui est favorable, la nourriture qui vient du ciel. Leur âme est comme un membre mort, comme une main sèche à l'intérieur d'eux. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont un petit peu comme cette station spatiale dont nous avons parlé il y a un mois ou deux mois. Vous avez vu les informations ? Il y avait une station spatiale chinoise qui était sortie de leur orbite, de son, c'est comme ça qu'on dit, hein, de son orbite. Et après plusieurs révolutions, encore, elle s'est cheminée à tomber, peut-être vers Perpignan. Je disais à Titou, peut-être ça va tomber dans ton jardin. Hein. Voilà. Cette station spatiale, elle a commencé à sortir de son orbite, à sortir de son chemin, à sortir du but pour lequel elle avait été envoyée. Et à la fin, c'était le crash de cette station. Les gens courent après la satisfaction de leur âme, mais ils ne savent pas leur plus grand besoin. Le plus grand besoin où l'Évangile met le doigt, c'est « tu as besoin de relation avec ton Créateur. Tu as besoin d'une nouvelle relation avec ton Père. Tu as besoin de réparer ce qui a été cassé. Tu as besoin d'une nouvelle relation. » on amène à Jésus un paralytique. Quatre hommes le portent. Jésus voit son besoin, il n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Il voit le paralytique. Et ce que Jésus va lui dire, la première chose, tes péchés te sont pardonnés. Bah, tu te trompes de cible, Seigneur. Ce n'est pas de savoir que ses péchés sont pardonnés, c'est de remarcher qu'il a besoin, cet homme-là. N'est-ce pas? Non, Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Et après, ensuite, il le guérit. Mais tes péchés sont pardonnés. Jésus répond au plus grand besoin de l'homme, celui du pardon, d'une relation restaurée avec le Seigneur. Notre plaie immense, c'est que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Nous ne sommes pas avec qui nous devrions être. Nous ne faisons pas ce que nous devrions être et ce que nous devrions faire. Et c'est ça que la Bible appelle le péché. Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui, pour que son affection, tout à l'heure Laurent parlait d'un amour extravagant de Dieu, hein, pour que son affection envers nous puisse être réciproque. Mais nous, on s'est détourné de lui. On s'est détourné de lui. Nous ne l'avons pas adoré pour qui il est. Nous avons suivi notre propre voie. Nous avons sorti de l'orbite. Nous avons préféré les idoles que nous nous fabriquons. Nous sommes entrés dans un chemin de séparation d'avec notre Père. Le péché habite dans l'homme. L'apôtre Paul, il dit, il se regarde, il constate cette misère. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Malheur à moi qui me délivrera de ce corps de mort. Où est le salut? Où est le salut? L'évangile commence par mettre le doigt sur notre misère. L'évangile commence par mettre le doigt sur votre misère. Avons-nous conscience de notre misère? Quels sont les symptômes que vous manifestez qui est dû à cette misère? Est-ce un mal-être? Est-ce une maladie? Est-ce un désir insatiable de bonheur que vous ne trouvez jamais? Comment se manifeste cette séparation avec le Seigneur? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Une mort en soi-même n'est jamais une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, là, c'est une bonne nouvelle. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés est une bonne nouvelle. Le mot « pour » signifie « à la place de ». C'est une substitution. Un substitut, c'est une personne qui prend la place d'un autre. Nous devrions être morts pour nos péchés. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, est mort à notre place. Jésus a pris notre place pour que nous ayons sa place. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Ok ? Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes aimé de Dieu. Non, c'est pour vous faire remuer un peu. Hein ? Vous êtes aimé de Dieu au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ. C'est le cœur de l'évangile. Jésus a pris notre place pour que nous ayons sa place. C'est sa mort à notre place pour nos péchés. Il est étonnant que l'apôtre Paul ne cite pas toute la vie de Jésus, ne cite pas l'enseignement de Jésus. Il dit l'évangile, c'est qu'il est mort pour vos péchés. l'enseignement de Jésus ne sauve pas. Les guérisons que Jésus a faites, que nous lisons dans l'Évangile, ne sauvent pas. Seule la mort sur la croix pour nos péchés nous sauve. Alors Paul va insister sur la réalité de la mort physique de Jésus. Jésus ne s'est pas juste évanoui sur la croix. Il n'est pas entré juste dans un coma. Il a été enseveli durant 3 jours. Enseveli, mis dans une tombe. Les personnes qui entouraient le corps du Christ ont attesté de sa véritable mort. Les Romains ont attesté sa mort. Ils ont percé le côté de Jésus, ont percé le cœur du Seigneur. Ses parents et ses amis avaient commencé à embaumer le corps. Des gardes avaient été placés devant le tombeau. Un sceau avait été placé sur la pierre pour attester de la réalité de la mort du Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est un fait, un événement historique. Il a été placé dans le tombeau. Mais l'énoncé de la bonne nouvelle de l'Évangile, il ne s'arrête pas là. Il est ressuscité le 3e jour. Et là, j'attends de votre réponse. Alléluia! Oui, Seigneur Jésus, tu es ressuscité. La résurrection de Jésus est l'événement qui atteste que nos péchés sont vraiment pardonnés. Verset 17 de cet épître, il nous est dit, si le Christ n'est pas ressuscité, si le Christ n'est pas ressuscité, mes amis, votre foi, c'est une illusion et vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans votre misère. Vous êtes encore sous la coupe de la colère si le Christ n'est pas ressuscité. La résurrection du Christ montre la victoire sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit l'apôtre Paul. Mort, où est ta victoire? Vous savez qu'un jour, c'est marqué comme ça dans le livre de l'Apocalypse, la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Vaincre la mort, les êtres humains en rêvent depuis le jardin d'Éden. Depuis l'embaumement des momies en Égypte, au rêve fou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement transhumaniste. Ça vous dit, ça vous parle un peu, hein? L'homme veut s'affranchir de la mort grâce à la technique, grâce à la science. Certains rêvent de la mort de la mort. Avec l'événement des neurosciences, avec l'avènement, je dirais, de la technique informatique, de l'intelligence artificielle, un jour, ceux qui militent dans le mouvement transhumaniste disent « on vaincra la mort ». Voici une nouvelle idole que l'on est en train de construire dans le monde. Un seul est sorti du tombeau, vainqueur. Un seul. Nous assurons la victoire sur la mort et notre propre résurrection. Alors, le message de l'Évangile continue. L'énoncé continue. Jésus-Christ est ressuscité. Ça se passe il y a 2000 ans, ok? Mais il a été vu. Il a été vu. Il s'est montré. Ce n'est pas une élucubration d'un individu solitaire, la résurrection du Christ. Ce n'est pas la folie mystique d'un individu dans une grotte. Il a été vu à plusieurs reprises, par des gens différents, en petits groupes, en grands groupes, 500 personnes à la fois, et pas simplement par des personnes qui sont acquises à sa cause. Pierre l'avait renié. Jacques était le fils de Marie, demi-frère de Jésus. Mais Jacques pensait que Jésus-Christ avait perdu la raison. Jacques pensait que son frère avait un grain dans le ciboulot. Et Paul était un persécuteur de l'Église. Ils ont été témoins des oculaires de ce fait de la résurrection du Christ. Ils ont vu et ils ont cru. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en présence du ressuscité, loin de nos regards, mais ils nous encouragent par leur foi. Jésus a dit à Thomas, « Tu es heureux, Thomas, parce que tu as vu et tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus mort dans un tombeau, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais Jésus ressuscité, assis sur le trône de Dieu, continue activement à agir dans le monde, n'est-ce pas? Le livre des Actes et la vie de l'Église témoignent de la vie de Jésus-Christ. Chaque croyant né de nouveau est un témoin de la résurrection de Christ. L'Église, si Christ n'était pas ressuscité, si Christ n'était pas ressuscité et s'il y avait encore des gens qui croient en Jésus-Christ, qu'est-ce que serait l'Église? L'Église serait un musée. L'Église serait une antiquité. Hein? Mais l'Église est un témoin de la résurrection du Christ. Non? Vous n'avez pas témoigné de ça en chantant tout à l'heure? Hein? Ou alors vous avez oublié ce que vous avez chanté? Nous sommes les témoins de vie changée par Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul se donne en exemple de la réalité qui est transformante de l'évangile de la grâce, frères et sœurs. Et je l'appelle maintenant l'évangile de la grâce parce que en un seul verset, le verset 10, il y a trois fois le mot « grâce ». L'évangile du salut est un évangile de la grâce. L'évangile de la grâce lui a montré sa misère d'abord à l'apôtre Paul. Il a fait ce parcours. L'évangile de la grâce n'est pas un évangile de la grâce si la misère de l'homme n'est pas manifestée. Vous êtes milliardaire, je vous le souhaite. Mais on vous dit que vous venez de gagner 10 000 euros. Ben, ça vous fait ni chaud ni froid. Hein. C'est comme si vous veniez de trouver une pièce de 5 centimes sur votre parcours. Je crois qu'il n'y a personne de milliardaire chez nous, hein, ça se saurait. Vous venez de faire un très bon repas, mais vraiment un très bon repas, un bon réveillon. Puis quelqu'un vous propose encore, allez, une tranche de saumon. Un peu de foie gras. Malheur à celui qui est déjà rassasié. L'évangile s'adresse à ceux qui ont faim. L'évangile s'adresse à ceux qui ont un besoin. L'évangile s'adresse à ceux qui considèrent leur misère et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est à eux que ça s'adresse. Jésus, il va dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un docteur, ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur. L'apôtre Paul, il était tout fier de son zèle pour Dieu. Il ne savait pas qu'il était misérable. Il avait un bon regard sur lui. Extraordinaire, et Jésus l'arrête sur le chemin de Damas. Une fois j'avais dit sur le chemin de Dallas, mais je m'étais trompé d'histoire. Sur le chemin de Damas, Jésus l'arrête, se révèle à lui. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Pendant 3 jours, il a les yeux fermés, il est aveugle, il n'entend que cette parole, je dirais presque même il est sourd. Il n'entend que cette parole, « Qui es-tu, Seigneur ?» L'apôtre Paul considère sa misère. Il est devenu misérable. Et comment il dit de lui-même ? Il dit, j'ai été comme un avorton par rapport aux choses spirituelles. Qu'est-ce que c'est qu'un avorton ? C'est un mort-né. Il était mort spirituellement. Il était aveugle. Il était sourd. Et là, il découvre sa complète misère. Et c'est pour ça qu'il comprend la grâce. Dans sa misère, Jésus-Christ est venu le relever. La grâce de Dieu l'a restauré et lui donne une nouvelle identité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'adore ce verset. Parce que souvent, quand je me considère au miroir, je ne suis pas satisfait de moi. Alors je me rappelle l'Évangile. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler l'Évangile, frères et sœurs. Parce que devant le miroir, nous avons besoin de nous rappeler l'Évangile. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Seigneur, tu m'aimes à cause de Jésus-Christ. Tu aimes Norbert à cause de Jésus-Christ. Tu aimes Nicolas à cause de Jésus-Christ. Tu aimes Laure à cause de Jésus-Christ. Tu aimes Gabriel, tu aimes Mélodie. Jésus-Christ, Dieu nous aime à cause de Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, frères et sœurs, c'est incroyable. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Seigneur Jésus, ouf, j'ai plus besoin de courir après un sens à la vie. Ouf, Seigneur, j'ai pas besoin d'essayer de te plaire. Je suis plaisant à tes yeux à cause de Jésus-Christ. Mais c'est extraordinaire l'Évangile. C'est le repos à la Réunion Maison. On parlait du repos mercredi dernier, on parlait du repos. Mais quelqu'un qui trouve Jésus-Christ, il rentre dans le repos de Dieu. Il n'a plus besoin de satisfaire Dieu. Waouh. C'est Steve qui disait ça. Hein, waouh. Voilà. Et troisièmement, la grâce a réorienté sa trajectoire. Il dit qu'il se donne beaucoup de peine pour proclamer l'Évangile. Alors, beaucoup de peine pour proclamer l'Évangile. C'est un peu contradiction si on parle de repos. Mais il dit, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Il n'évangélise pas, il ne prêche pas pour payer ou pour rembourser ou pour compenser la grâce. C'est la grâce qui agit en lui et qui le motive et qui lui donne la force. C'est bientôt la fête des mères, la fête des pères, etc. Et les familles de ceux qui ont des petits-enfants savent que la maman ou le papa attend un cadeau de leur part. Mais les enfants en bas âge n'ont pas de ressources, n'est-ce pas, en eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa ou la maman ? Lui donne de l'argent, va l'accompagner au magasin, achète le cadeau qu'il se fait à lui-même en quelque part. Hein ? Eh bien, c'est ce que fait l'Évangile. L'Évangile est un cadeau, nous avons tout reçu. Et lorsque nous disons « je travaille pour Dieu », en fait c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en moi pour que je me donne à Dieu. C'est extraordinaire. Je vais juste citer un texte qui me plaît énormément. Je vous conseille d'écouter l'étude biblique que Catherine a fait à l'espace Séguier sur le parfum. C'est là sur l'épître de l'apôtre Paul, sur comment l'apôtre Paul se sert de l'Ancien Testament pour parler des choses de la grâce. Et Catherine citait cette femme qui déverse son parfum de grand prix aux pieds de Jésus et qui pleure aux pieds de Jésus en répondant « un nard de grand prix, le salaire d'une année déversé pour rien ». Et Jésus va dire, je vais le lire, tu vois cette femme, c'est quelqu'un qui critique, hein, il y a toujours des critiqueurs, hein, il dit, cette femme-là, c'est une femme qui est de mauvaise vie, elle dépense de l'argent sans compter au pied de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait là? Si Jésus était vraiment un prophète, un homme de Dieu, il l'aurait rejeté. Voilà. Il se tourne, Jésus se tourne vers la femme et il reprit, tu vois cette femme, Jésus regarde la femme et il s'adresse au critiqueur, c'est extraordinaire. Tu vois cette femme, eh bien quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle, elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné de tant d'amour. Celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Frères et sœurs, en tant que responsables de l'Assemblée, avec Pascal, avec le Conseil, souvent nous prions pour vous, c'est un peu notre rôle, et souvent nous disons, Seigneur, eh bien, ranime notre foi d'abord premièrement, parce qu'il faut toujours s'inclure, ranime notre foi, ranime la foi de mes frères et sœurs dans l'Assemblée. C'est notre prière. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit dans notre Assemblée. Manifeste-toi par une plus grande amour, un amour passionné pour toi. Eh bien, la réponse, elle est dans ce que cette personne a fait. Elle a compris sa misère. Elle a compris la grâce et elle a eu un amour passionné pour Jésus. Et frères et sœurs, si je veux ce matin que mon cœur s'enflamme, que nos cœurs s'enflamment pour Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul moyen, c'est regarder à l'Évangile et de nous rappeler l'Évangile tel que l'apôtre Paul le fait pour le Corinthien. Christ est mort pour tes péchés, Norbert. Il a eu un amour extravagant pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Tu méritais la mort et il est mort à ta place. Tes péchés ont été couverts par le sang de Jésus. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui booste notre foi, qui booste notre amour pour Dieu. Il n'y a que ça qui peut booster d'ailleurs notre amour pour Dieu. Que cet amour incroyable que Jésus a eu pour chacun d'entre nous. Comment on reçoit l'Évangile? Et je vais terminer par là parce que peut-être il y a parmi nous des gens qui ne savent pas comment recevoir l'Évangile. Et bien simplement, l'apôtre Paul dit... Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que vous avez reçu. Recevoir. Alors pour recevoir, il suffit simplement de tendre la main, d'ouvrir sa main et d'accepter le cadeau que Dieu vous fait en Jésus-Christ. Refermer sa main, le faire sien. C'est comme ça que l'on est sauvé. Tendre la main, recevoir, faire sien. S'approprier. Et le Seigneur dit, à ce moment-là, l'Évangile te sauve. C'est un cadeau pour chacun d'entre nous. Et s'il y a des personnes ce matin qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont loin, mais qui comprennent, parce que le Saint-Esprit travaille en eux, incognito, qui comprennent leur misère, à ce moment-là, qu'ils ouvrent leurs mains, qu'ils acceptent, qu'ils la referment, qu'ils l'accueillent, qu'ils la reçoivent. Je vais prier. Je vous propose simplement de fermer les yeux. J'ai pris du temps pour parler, je m'en excuse, mais l'apôtre Paul avait de cesse de répéter l'Évangile, de le rappeler sans arrêt. Et je croyais que c'était important pour nous, encore ce matin, de nous rappeler de l'Évangile. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour notre Église qui est bâtie sur l'Évangile, qui est fondée sur l'Évangile. Et Seigneur Jésus, nous voulons nous en rappeler comme un évangile de grâce. Seigneur Jésus, tu ne nous mets pas simplement la tête dans notre misère pour dire « voilà ta misère », mais tu nous montres notre misère pour que nous comprenions ta grande grâce, ton grand amour. Et Seigneur, nous aussi, nous voulons être une église passionnée de toi, qu'un seul moyen, te regarder et regarder cet amour extraordinaire que tu as pour chacun d'entre nous. Je voudrais que les personnes qui ont été simplement touchées par ce message puissent se lever, qu'ils soient chrétiens de longue date ou peu, recommencer comme un amour-passion pour Jésus, faire comme cette femme qui a déversé son parfum, qu'ils le fassent. Je vous propose maintenant, tout en gardant les yeux fermés, eh bien, de vous lever à votre place et dire « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé par toi ». Et s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui sent que le Seigneur l'appelle en ce moment, sent cette douce pression, quelque chose sur son cœur,